Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et jusqu'à 21h, on débrief ensemble l'actu tech. Avec ce soir, sur le plateau de Tech & Co, Perle Bagot. Bonsoir Perle. C'est François, moi, François, mais c'est pas grave, il est là, Fred. Mais ça nous arrive tout le temps.
Mais souvent, vous tournez.
Tout le temps.
C'est-à-dire que parfois, c'est toi.
Mais oui, voilà, c'est ça.
Mais vous êtes formidables, tous les deux.
Et puis, François, Fred, il y a Fr au début. Voilà. C'est ça qui est embêtant. Fred, tu devrais changer de prénom. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution.
On va demander à une IA de réfléchir.
Une IA, voilà, pour trouver un nouveau prénom. Ça pourrait être rigolo. Perle Bagot, donc, qui est experte en innovation digitale. Ça fait 15 ans que tu évolues dans ce secteur de la tech. Tu as accompagné plein d'institutions françaises, tu as soutenu des start-up, des entreprises, tu as travaillé avec les grands acteurs de la tech. Bref, n'en jetons plus. Merci d'être avec nous ce soir. À tes côtés, Lucas Perraudin. Salut Lucas.
Bonsoir François.
Fondateur de Mula Digital, que vous connaissez bien sûr, c'est un fidèle de Tech & Co et ancien directeur du Meta Reality Labs version Europe. Tout va bien ?
Très bien.
Voilà.
Merci.
Frédéric Simotel, enfin... pour la dernière fois, hein, puisque bientôt il s'appellera Christophe.
François Simotel.
On va essayer de trouver les journalistes. Charles Simotel, journaliste à BFM Business. Et Isabelle Bordrier est avec nous aussi. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Co-fondatrice de Retency, ancienne directrice générale de Yahoo France, entre autres. Voilà, du beau monde pour commenter. Une belle actu, enfin deux belles actus. On va beaucoup parler, vous l'avez compris, d'intelligence artificielle, de Siri aussi, qui, avec la WWDC et l'intelligence artificielle, va devenir sans doute beaucoup plus intelligent. Je le disais tout à l'heure, on parlera des résultats financiers d'OpenAI. Et puis, j'allais dire du résultat financier d'Elon Musk, ou plutôt de sa rémunération, qui est plutôt sympathique. Hein. Voilà, c'est un sujet qu'on évoquera aussi. Bref, plein de bonnes choses, mais pour débuter, donc, parlons du hardware. Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, le moteur de tout cela, évidemment, ce sont ces puces fabriquées pour la plupart par Nvidia, mais après, il faut qu'on ait des appareils pour en profiter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous ces appareils se mettent un peu au niveau de cette intelligence artificielle, que ce soit les PC, que ce soit les smartphones, on l'a vu avec l'iPhone, hein, qui va être boosté à l'intelligence artificielle, et même les voitures, on en parlera dans quelques instants avec Stellantis. Fred, je sais que c'est un sujet que tu voulais évoquer ce soir, tout comme Lucas et tout comme Isabelle et Perle. Qu'est-ce qui se passe en fait? On a l'impression que ça va redonner un coup de boost à toute l'industrie.
Sans doute, alors on attend toujours ce qui va donner un nouveau coup de boost à l'industrie du PC. Bon, le smartphone, il n'y a pas besoin de ça pour avoir son coup de boost, hein, il suffit d'avoir les quelques innovations, mais c'est vrai que parfois on se demander comme on voyait pas trop les innovations arriver, on se disait bon, continuer à racheter un iPhone 1500 dollars ou 1500 euros ou même aller chez les autres et payer assez cher pour faire des meilleures photos, etc. Bon, on voyait pas trop l'utilité, et là on sent quand même qu'il y a un nouvel élan qui est donné. Et puis pendant longtemps on pensait que c'était quelque part évidemment c'est du logiciel, mais on disait tellement c'est la valeur, elle est dans le logiciel et tout ça, puis on a laissé un peu filer ce hardware. Alors on a laissé un peu regarder partir les fabricants de PC en disant on verra bien où on les retrouvera un jour. On regardait Apple évidemment tout sur la partie smartphone, et puis là on voit que le hardware, alors que ce soit au niveau des composants et au niveau des devices, hein, est en train de vraiment de revenir en force, et qu'on va continuer à en avoir besoin. C'est-à-dire on aura toujours cette couche logicielle importante, mais et je trouve que c'est assez marrant de voir au Mobile World Congress, un peu au CES, beaucoup au Mobile World Congress c'était les PC, on nous met de l'IA partout et on veut repartir avec des Lenovo, des Dell et tout ça. Au passage, on pourra peut-être parler de l'équation de développement durable
de tout cela.
Parce que quand on assemble tout ça, je ne sais pas si on sait du bien pour la planète, mais enfin bon, on a nos téléphones qui vont doper à l'IA, et puis, mais pas, enfin celui-là oui, mais pas n'importe quel téléphone, il faudra avoir le téléphone. Donc voilà, allons
donc changer de téléphone
dans les magasins, etc. Allons acheter, et puis surtout dans les entreprises, débloquer un peu vos budgets achats, parce qu'il va falloir s'y remettre.
Isabelle.
Mais je pense qu'en fait on arrive à la fin d'un modèle, la fin du modèle SaaS. On arrive au bout de la loi de Moore, et en fait on n'a plus la capacité aujourd'hui, avec le même iPhone, d'être encore plus, avoir des capacités équivalentes à prix équivalent. Et donc aujourd'hui tout est dans les data centers, et ça a été une vraie révolution avec le cloud, mais maintenant on ne peut plus tout mettre dans les data centers. Et d'ailleurs il y a même des communes qui refusent d'avoir des data centers, qui deviennent de plus en plus gros et de plus en plus consommateurs d'énergie. Et donc cette nécessité de recréer ou de remettre de la puissance de calcul dans l'iPhone et dans le PC est absolument essentiel. C'est-à-dire que si on veut avoir de l'IA dans Siri, on ne peut pas faire comme aujourd'hui, faire en sorte que le morceau de voix soit envoyé à un serveur, traité sur un serveur et revenir dans notre téléphone. Il faut qu'il y ait une partie de la puissance de calcul qui soit effectivement embarquée. Donc c'est une opportunité effectivement pour les constructeurs,
bien sûr.
Mais c'est absolument essentiel pour qu'on puisse effectivement améliorer et doper, augmenter nos outils.
Perle, Lucas, qui veut dégainer.
Oui, c'est vrai que c'est une opportunité pour les constructeurs. Et là, pour le coup, Apple a un coup d'avance parce que ça a été son parti pris depuis le début. Parce qu'en ayant cette puissance de calcul dans le téléphone, dans le device, ça veut dire que la donnée reste dans le device. Et ça a été un parti pris super fort d'Apple depuis longtemps. Donc là, ça fait quelques mois, on dit oui, Apple est en retard avec l'IA générative, ce qui était effectivement dans une certaine mesure assez juste. Là, pour le coup, effectivement, c'est un marathon, c'est une course de fond. Et ils vont la valeur et l'élément de différenciation qui faisait vraiment que Apple, voilà, c'est vos données restent dans vos téléphones. Bon, ben, en ayant cette approche-là, aussi cette démarche-là de dire on ressente l'intelligence dans le device directement. Apple, pour le coup, voilà, a vraiment un coup d'avance par rapport à ça.
Il n'y a pas le choix.
Non, il n'y a pas le choix.
Techniquement, il n'y a pas le choix.
Et en fait, on est un peu comme c'est du edge computing, quoi.
C'est-à-dire exactement.
Que finalement, on a une partie qui se fait, on va dire, dans le téléphone pour des petites tâches d'intelligence artificielle. Et puis, on le voit, mais on en parlera tout à l'heure avec Siri, hein, puisque Siri va maintenant être connecté à ChatGPT. Là, bien évidemment, quand vous allez, questionner Siri, d'ailleurs, je crois que quand on questionnera Siri d'une manière générale, il faudra attaquer les serveurs, hein, puisque en fait, je crois que l'IA qu'on a sur le téléphone ne suffit pas pour alimenter un Siri, mais Siri pour aller aussi se connecter à ChatGPT. Lucas, sur ce sujet que tu connais bien, on t'écoute.
Je suis désolé, mais je suis absolument pas d'accord avec tout ce qui vient de cette.
Mais j'adore Lucas. Vraiment, quand il n'est pas d'accord avec nous, c'est bien.
Pas du tout, parce que, enfin, pour connaître l'état de l'art des modèles et leur niveau de stabilité. L'histoire de faire du local computing sur des LLM, nous on en fait. Hein. Moi, je discute avec mon C-Drive avec mon disque dur depuis quelques mois déjà. C'est un peu, alors, dans l'état de l'art d'aujourd'hui, c'est une fable. C'est-à-dire que ça sert surtout à essayer de revendre des smartphones à Apple. Son record, c'est 2015, de 231 millions. Ils ont fait 231 millions l'année dernière en iPhone. Ça plafonne parce qu'effectivement, le bénéfice marginal d'investissement, il n'est pas 1,14 versus 1,15 versus 1,16. Ce ne sera pas très différent. Donc, il faut avoir une histoire à raconter pour renouveler le hardware. Les fabricants de PC, c'est la même chose. Hein. On a fait 20 ans d'HP. moins 28 l'année dernière. Il y aura moins 30%. En gros, là, ça fait un peu de croissance à 1%.
Il y a eu le boom pendant le Covid et puis après, le marché s'est effondré.
On est sous les niveaux pré-Covid. On va peut-être arriver au niveau pré-Covid prochain quarter, mais ce ne sera pas formidable. Et donc, ils ont besoin de raconter cette histoire. Mais la réalité, c'est qu'une expérience qui a... l'expérience Apple... Déjà, bon, Apple Intelligence, je vous passe mon commentaire sur le...
Ah non, mais justement, pourquoi tu en passes ? On passe pas dessus ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que c'est ridicule. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais je pense que Apple a eu cette habitude de relabeler les choses à sa sauce, ce qui est parfois a du sens, basé sur un usage. Mais là, Apple Intelligence, c'est vraiment ça va trop loin pour moi en termes d'hypocrisie. C'est vraiment voilà. Pour moi, ça passe la ligne pour moi.
J'imagine que tu as suivi cette WWDC. Il y a quand même des fonctions. Alors. Pas forcément d'intelligence artificielle générative, mais plutôt de DIA qui est intégrée dans l'OS, qui va nous permettre de résumer des mails. Il y a plein de choses sur les notes,
de nous simplifier la
enregistrer les conversations téléphoniques pour après les retranscrire et en faire des résumés. Enfin, il y a plein de choses.
Ça, c'est une découverte pour les utilisateurs d'iPhone. Pour les utilisateurs d'Android, c'est une vieille histoire.
Oui, tu as raison. Sauf que là, c'est encore mieux intégré. Et ça, tu peux pas dire le contraire.
Peut-être.
Vachement bien intégré dans iOS.
Simplement.
Sans doute mieux qu'Android.
Simplement, compte tenu de la maturité de l'intelligence artificielle dont on parle, en gros, ça fait du local sur le chipset, si vous avez un M, hein, pour parler un peu techniquement. Ensuite, quand il est en overflow, c'est-à-dire qu'il est dépassé par ce qu'on lui demande, il va taper sur un serveur Apple qui réplique votre environnement privé et qui répond. Et si ça ne marche pas, on vous demande si vous voulez parler à ChatGPT et puis plus tard à Gemini. Or, il se trouve que les capacités de ces modèles, elles sont hyper fluides. Les capacités d'intégration de votre environnement privé, elles sont hyper fluides. Et c'est beaucoup trop tôt pour répondre à la question du avoir un three-step computing comme ça en trois étages. Mais, c'est ouais, pas, mais, c'est une belle histoire, mais c'est pas, c'est pas viable aujourd'hui.
Tu vas avoir ce que tu as déjà en entreprise. Pardon. Juste la première, tu vas avoir des sortes de portails. C'est-à-dire pour chaque usage, tu vas avoir un peu un style. Tu vas aller chercher l'IA, l'IA qui correspond à ton usage. Et pour ça, tu vas avoir parfois, si c'est juste la retranscription de texte, ça ira sur le directement sur smartphone.
À chaque release de modèle, tu vas obsoléter ça. Parce qu'aujourd'hui, ça bouge trop vite. Oui. Et le trade-off de local versus cloud-based, aujourd'hui, je vais avoir un GPT-5 et ça va devenir insupportable de faire du local parce que la performance de mon cloud-based sera trop... Donc il faut qu'on asymptote, la performance des modèles avant de faire ça.
Et ça dépend de ce que tu lui demandes de faire.
Mais toute l'idée et tout l'enjeu, c'est aussi l'écran. C'est-à-dire, je pense que l'interface de l'écran, aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça va marcher, mais est très challengée. C'est-à-dire que si, effectivement, Siri devient plus intelligent, si on arrive à parler à sa montre ou à ses lunettes ou
à ses AirPods,
à un petit objet ou à sa voiture, pour lui demander d'envoyer un email, pour lui demander de synthétiser une conversation téléphonique que je viens d'avoir, tout l'enjeu est là, en fait. L'enjeu est de se dire, on va créer des nouvelles interfaces. Alors après, est-ce que les gens vont se les approprier? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'applications et de développeurs qui vont se les approprier? Effectivement, tout est à écrire. Mais je pense que c'est une vraie rupture. Je pense qu'il y a une rupture en termes de capacité. Je pense qu'il y a des ruptures en termes de capacité de calcul, de capacité d'énergie et de data center. Aujourd'hui, on ne peut plus tout faire avec l'existant où il faudrait recouvrir des terres entières de data center. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, il y a effectivement ce jeu de l'interface. En étant à l'intérieur d'un Apple, c'est-à-dire quasiment aujourd'hui d'un milliard de personnes dans leur intimité des 4 heures par jour que l'on passe sur son téléphone, il va y avoir des nouveaux usages qui seront peut-être liés à la voix et qui vont nous permettre de créer effectivement de téléphoner de manière très simple, de communiquer.
Mais ça, c'est pas incompatible. Enfin, ça et la discussion d'infrastructure, qu'il y ait un changement d'interface et un besoin d'interface plus fluide, aucun problème. La question, c'est quel type de service on appelle et quel type de stabilité on a sur ces services pour pouvoir les ancrer dans le hardware. Hardware, c'est dur et ça prend du temps. Donc il faut plus de stabilité que ce qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un pari.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la puce qu'il y aura dans l'iPhone 16 ne sera pas assez puissante pour faire tourner un LLM qui sortira l'année d'après. Donc ce qui fait que toute cette intelligence sera déportée dans le cloud.
Ou alors le gap entre le local et le cloud-based deviendra tellement insupportable pour l'utilisateur parce qu'on a des choses tellement meilleures qu'on ira chercher dans le cloud. Et la privacy,
mais
alors c'est vrai que l'intégration est difficile.
Mais ça
dépend des tâches que tu lui fais faire. Enfin,
et puis aujourd'hui, l'évolution des infrastructures, des technos va tellement vite qu'on peut considérer que voilà, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, on aura réduit ce gap entre...
Ça peut aller dans les deux sens, mais pour prendre ce pari du hardware aujourd'hui, c'est trop tôt. Par contre, le edge computing, il est... fortement poussé par tous les acteurs de l'AR et de la VR, parce qu'on a besoin d'edge computing pour faire de l'AR et de la VR en temps réel.
Mais même les
Donc cette infrastructure-là, elle arrive quoi qu'il en soit. Je crois beaucoup plus à plus d'edge computing, des devices qui sont de plus en plus smart, mais pas un besoin de renouvellement comme celui qu'on nous vend.
Tiens, juste, alors, on a évoqué le PC, on a évoqué le smartphone et notamment l'iPhone. Alors, l'iPhone n'est pas le seul, hein, puisque Samsung a aussi développé toute sa stratégie IA et tous les constructeurs vont s'y mettre. J'aimerais qu'on s'intéresse à la voiture maintenant, parce que Stellantis mise aussi sur le software depuis sa création en 2021 et l'entreprise a monté, en fait, une business unit autour du logiciel et des services connectés. Et aujourd'hui, il faut le savoir, 6000 personnes travaillent pour cette entité qui a de grandes ambitions et vous verrez, il y a de l'IA, le reportage de Justine et on revient juste après.
Le software chez Stellantis, cela peut être ChatGPT qui raconte une histoire aux enfants dans la voiture.
Ok Iris, could you tell me a story?
Once upon a time, in the beautiful city of Chicago.
Yves Bonnefond est le Chief Software Officer de Stellantis.
Dans cette DS3, vous avez ChatGPT, qui est votre assistant vocal personnel à l'intérieur de la voiture, qui peut vous donner tout un tas d'informations sur ce qu'il y a autour de la voiture.
Aujourd'hui, plus de 13 millions de voitures de Stellantis sont équipées d'une manière ou d'une autre de software. L'innovation doit être permanente.
Le téléphone va récupérer en temps réel les données de la batterie du véhicule, en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez, de la température extérieure, etc. Et va éventuellement vous rerouter en temps réel vers les stations de recharge, en fonction de la disponibilité des stations de recharge, en fonction aussi des dernières informations informations sur la puissance de recharge de ces stations pour vous faire le trajet le plus court possible.
Face à des concurrents comme Tesla, Stellantis, qui n'est pas en avance dans la bataille du software, a un avantage.
Le software, c'est une industrie de coûts fixes. Vous développez une version logicielle et une fois que vous l'avez développée, vous la déployez sur l'ensemble des marques, l'ensemble des véhicules. Et donc, la taille de Stellantis se prête très bien à l'intégration du software en interne.
Stellantis, comme souvent, a des objectifs très ambitieux. Le software devrait représenter, selon le groupe, 15% de son chiffre d'affaires en 2030, soit 20 milliards d'euros.
Voilà, reportage donc de Justine Vassogne. Et de la même manière, hein, là, on voit que le hardware va être mis à jour aussi dans les voitures pour pouvoir avoir ChatGPT. L'exemple est assez sympa d'avoir une histoire pour des enfants créée par ChatGPT quand on a 2 ou 3 heures de route. Et c'est simplement un petit exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, c'est une autoroute pour l'industrie de l'automobile, mais ça va être assez impressionnant, non?
Ça fait quelques années maintenant qu'on voit effectivement typiquement les constructeurs automobiles au CES qui passent des partenariats très importants avec à la fois des acteurs comme Nvidia ou des acteurs type de l'entertainment, des Disney, ce genre de choses, parce qu'effectivement on revoit complètement l'expérience dans la voiture. Et là on vient ajouter une brique supplémentaire. Là pour le coup, moi je suis beaucoup plus sceptique sur la voiture. C'est quand même une grosse machine, et la mise à jour et la capacité à pouvoir justement à chaque fois faire évoluer la mise à jour de ces logiciels dans une voiture, dans un contexte où tout va vite, comme tu le disais tout à l'heure, ta remarque, elle me parle beaucoup plus là dans le cadre de la voiture que par rapport au téléphone ou à l'ordinateur.
Lucas.
C'est une bataille de gatekeeping. Parce qu'en fait, la question, c'est qu'est-ce que mon Android Auto ne peut pas faire que ma voiture Stellantis pourra faire. Et donc, Musk, il a choisi de... On ne peut pas faire Apple CarPlay ou Android Auto parce qu'il veut avoir toute la data. Donc, lui, c'est une société de tech. Et toutes les sociétés qui ne sont pas de tech doivent jouer le jeu d'Android Auto et Apple CarPlay. Et là, ce qu'on voit, c'est plutôt une stratégie de gatekeeping qui disent... Je suis désolé, je parle très mal français.
Parce que tu vis à Londres et tu ne parles plus français, en fait.
C'est vrai, mais ça n'est pas une excuse. C'est ma langue natale. L'idée, c'est, est-ce qu'une alliance... Là, il parlait c'est assez naïf. Le software, c'est un coût fixe. Non, le software, c'est un amortissement. Mais en tout cas, c'est une alliance avec un ChatGPT, qu'on va appeler dans le cloud, évidemment, et qui donne un peu de gatekeeping. C'est-à-dire qu'on se sert de la voiture comme interface. Et là, on revient sur les nouveaux cas d'usage. Ça, on est tout à fait d'accord que les interfaces changent. Donc, c'est un peu gadget. La question, c'est si dans tous les véhicules Stellantis, on downgrade la capacité d'Android Auto, alors ça devient obligatoire. Alors, il y a une chance. Mais là, on va vers une fragmentation en fait des devices, qui est une autre question derrière.
Fred ou Isabelle. Isabelle et après Fred.
Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a 20 ans quand j'étais chez Yahoo, même 25 ans quand j'étais chez Yahoo, on avait déjà des discussions avec les constructeurs automobiles. Et la grande idée, c'était de savoir si ça allait être un téléphone, et là on l'imaginait même pas à l'époque, parce que ça nous paraissait l'iPhone a tout révolutionné quand même, et donc on était bien avant l'iPhone. Donc là c'était effectivement de l'embarquer dans la voiture, et puis depuis maintenant 20 ans, 15 ans, je ne sais plus quel âge à l'iPhone, c'est devenu effectivement l'iPhone qui a repris le lead, et là on revient sur ce qui avait été effectivement imaginé au départ, c'est-à-dire mettre de l'intelligence dans la voiture. C'est ce que fait effectivement très bien Tesla. Stellantis est obligé, pour se différencier, d'avoir une réponse. Est-ce que c'est une réponse pertinente? Je pense qu'ils vont être très dépendants de ChatGPT, ce qui me paraît effectivement une faiblesse, surtout quand on est dans une voiture.
C'est plus un narratif pour les investisseurs.
Qui est effectivement importante.
Tu penses que c'est plus une accroche marketing?
C'est l'investisseur narratif.
Sincèrement, raconter une histoire dans la voiture, je trouve que c'est dommage que ça soit pas la même ou le papa qui raconte une histoire. Si ChatGPT est là uniquement pour raconter des histoires ou synthétiser des mails, ils vont jamais arriver à valoriser la valeur qu'ils ont aujourd'hui. Donc il est nécessaire de trouver d'autres applications. Donc effectivement, celle qu'il évoquait sur la synchronisation de l'entièreté des indicateurs de la voiture peut être un sujet, etc.
Je sais pas ce que t'en penses, Fred, mais je trouve que c'est en fait l'intelligence artificielle générative dans une voiture peut avoir du sens si elle est connectée en fait aux fonctions importantes de la voiture.
Il faut un agent, il faut qu'il fasse de l'agentic AI. Ouais.
Je sais pas, imaginez, on part en voiture tous.
Les pneus sont bien gonflés plutôt que regarder le truc. Bon,
voilà, et puis se dire, on arrive dans 30 minutes, trouve-moi une pizzeria dans un environnement.
Ça, on fait déjà ça. Ouais, mais excuse-moi, avec Android Auto, tu fais déjà ça.
Mais à la voix, comme ça, d'une manière très simple, avec une... D'accord, ok, bah tu vois, bah, moi j'ai pas Android Auto, je suis de l'autre côté, tu vois, mais ça le fait pas.
Je lui dis, trouve-moi une station-service sur le chemin, il me propose, et puis en discutant, ouais.
Voilà, mais là, c'est l'interface de la voiture. Donc effectivement, l'enjeu, c'est de savoir qui génère... C'est l'interface homme-machine. Mmh. Est-ce que c'est le téléphone ou est-ce que c'est la
c'est
voiture
ça, c'est le gatekeeping,
et quelle est la valeur ajoutée apportée par le fait que ça soit la voiture.
Mais je pense que... Et là, il faut s'inspirer d'un autre sujet dont on voulait parler. Moi, il y a deux choses. La première, c'est quand on est dans la voiture, je pense que la prochaine étape, c'est la maison aussi. On va parler à sa maison. Et puis, je reviens toujours à ce qu'a dit Bill Gates il y a 3 ans. Il a dit, un jour, on va oublier totalement les applications. Il faudra voir lesquelles se mettent en avant. Et on parlera tout simplement. Et je pense que là, on est en train d'arriver à ça. Et si Apple dit à OpenAI, attendez, on vous reverse pas d'argent comme on en reverse à Google ou alors enfin un minimum. C'est parce qu'ils vont dire à OpenAI, mais débrouillez-vous maintenant, allez discuter avec tous les autres, faire les liens, et je vais rentrer dans ma voiture, puis je vais dire, voilà, bonjour voiture, emmène-moi, je vais au 13 rue machin à Lyon, emmène-moi, et je n'irai pas chercher Waze. C'est OpenAI qui sera allé chercher Waze ou le meilleur, et c'est lui qui va se servir d'argent. Et
c'est un peu comme le deal moteur de recherche Google Apple. Ils ont intérêt à bien financer, alors c'est dans l'autre sens, OpenAI, pour pas qu'OpenAI aille créer d'autres points d'entrée si OpenAI devient l'application en rétention.
Ne me cramez pas mon sujet, parce qu'on va en parler juste après les infos de celui-là. mais c'est important, c'est le modèle économique, parce qu'on l'évoquera juste après l'info. Il n'y a pas eu d'accord financier entre Apple et OpenAI. Mais laissez-moi quelques minutes, on va y revenir dans quelques instants. Il nous reste de 45, j'aimerais qu'on évoque quand même aussi la seconde jeunesse de Siri, qui visiblement va passer dans une autre dimension. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, Isabelle. Et c'est vrai que là, Siri va devenir plus sympathique, on va dire, et en tout cas plus pertinent. Est-ce que tu penses que ça va changer les usages, Lucas, de qu'on peut avoir justement avec un assistant vocal?
Oui, alors, moins pertinent, ce serait difficile, donc plus pertinent, ça va être possible, surtout par rapport à ce qu'on sait de l'état de l'art. Oui, je pense que ça va changer. Alors là, Apple est un vrai gatekeeper, et s'ils arrivent à intégrer les apps et avoir des fonctions des applications dans cette conversation, évidemment, à mon avis, on va avoir une explosion de l'utilisation.
Ouais.
Ça, c'est... Ouais.
Quelqu'un là-dessus?
Oui, moi je pense que c'est un vrai enjeu. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que peut-être que dans 5 ou 10 ans, s'il y a suffisamment effectivement d'applications et de développeurs qui se saisissent de l'opportunité, on ne regardera plus un écran. Mm-hmm. Et on pourra parler à sa montre, à sa voiture, à ses lunettes. Et ça change tout en termes d'interface. C'est-à-dire que donc c'est vraiment une relation homme-machine qui est extrêmement différente, beaucoup plus fluide. Et je pense que ça va créer une vraie rupture, de la même manière que la rupture qu'on a eue en embarquant un téléphone avec de la data dans la poche.
Moi, je fais ça toute la journée. Oui. Je parle à mon téléphone toute la journée,
il me répond. Ça va s'améliorer.
On va dire que tu es un early adopter, tu as travaillé chez Meta, chez HP.
Ça marche hyper bien. Enfin, sur Android, et alors pour s'en faire de pub, sur un device Google Pixel avec Voice Recognition Google, c'est extrêmement performant.
Mais qui est un peu l'état de l'art de l'IA chez Google en ce moment, le Pixel.
Et la reconnaissance vocale de GPT est incroyable.
Ah oui.
Incroyable.
Mais après, je pense que l'enjeu, c'est les doubles commandes. C'est-à-dire, c'est de dire, c'est de pouvoir parler et de pouvoir commander du type « trouve-moi mon billet de train, vérifie effectivement qu'il y a une station-service, appelle la station-service pour vérifier qu'elle est ouverte. »
Mais après,
couverte.
C'est même plus lui parler, c'est lui qui va se débrouiller.
Absolument.
Il va regarder à partir de l'agenda, il va faire tout le reste.
Et à partir de là,
certaines fonctions
peux-tu vérifier qu'il y a effectivement que ma grand-mère...
Et juste pour l'anecdote, moi je trouve que c'est une excellente idée de ne pas avoir débaptisé Siri, de l'avoir laissé Siri. On aurait été perdu, tout ça, il y aurait eu un AI, un tennis.
C'est mieux que Bart et Gemini.
Apple Intelligence.
Là, au moins, c'est un Siri. Voilà, on va lui redonner un nouvel élan, une nouvelle jeunesse. Et tu sais, à l'époque, l'autre jour, on se disait, est-ce qu'il faut changer de nom?
Oui, c'est vrai, mais ça reste Siri.
Faut rester sur Siri, puis voilà, on lance le...
Perle, avant l'info.
Non, effectivement, je pense que le sujet, c'est moins la reconnaissance vocale qui est déjà effectivement optimale. Tu peux faire déjà aujourd'hui plein de choses, que plutôt la profondeur des informations que tu vas pouvoir récupérer, ce que tu vas pouvoir déclencher, créer à nouveau, et comment finalement, en fait, tu vas... ça va être un assistant personnel au sens humain du terme, c'est-à-dire qu'on va être dans une commande, dans un langage naturel permanent, un échange, plus que demander de faire une action, tout simplement.